j'ai pas mis le micro en face de moi, donc est-ce que ça te gêne au niveau de la prise de son, si, comme ça, quand je tourne ou pas? Ça va? D'accord. Bien. Donc le thème de ce soir, c'est la position de l'homme dans la création et sa responsabilité spirituelle face au vivant. Je viens de rajouter dans la création, hein, c'était pas tout à fait comme ça. Donc la présentation en ce qui me concerne, donc je suis né dans une ferme à Chapareillan, c'est pas très loin d'ici. Du côté de mes parents comme de mes grands-parents, on a affaire à des agriculteurs depuis des siècles. Donc j'ai eu cette chance, je dis que c'est une chance, d'avoir grandi dans une ferme. Les fermes d'il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, il y avait de la polyculture, c'était très diversifié au niveau de la présence des animaux. Et des types de cultures. D'être né dans une ferme, ça nous a donné le goût de l'effort, parce qu'à l'époque, on travaillait avec les parents depuis notre plus jeune âge, ça faisait partie du programme, et en fait, personne ne se plaignait, quoi. Donc je peux dire qu'à 5-6 ans, on était déjà avec des tâches assignées, on suivait les adultes à notre rythme, et... ça a été très formateur, en fait. Ça a été très formateur. Par la suite, j'ai pris le virus des voyages et j'étais passionné de langues étrangères. Donc, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de l'autostop en France, un peu en Europe. Et puis, plus tard, étant aussi moniteur de ski, je suis parti enseigner le ski dans différents pays, dans le but d'apprendre ou de parfaire des langues, et puis un petit passage à l'université aussi pour faire une licence d'anglais. Et le but de ces voyages, et dès le début des voyages, j'ai eu deux questions qui sont rapidement, se sont rapidement présentées à mon esprit en rencontrant tous ces gens de différents pays. La première question a été, comment se fait-il que moi qui suis le fils d'un petit agriculteur des Alpes françaises, né dans une ferme où il n'y avait ni téléphone ni télévision, comment se fait-il que, quand je voyage, j'ai aucun problème et j'ai jamais eu de soucis avec tous ces gens de culture, de niveaux sociaux et de races différentes? Ça, c'était la première question. Donc j'ai pensé que j'allais trouver ma réponse sur les routes du monde et leur chemin. J'ai donc quitté l'université par un bel après-midi du mois d'octobre 1972. Je me suis levé de l'amphithéâtre. J'étais devant une équation avec une belle réponse après le signe égal, nécessaire évidemment, cette belle réponse pour faire une industrie correcte, des bâtiments bien droits et bien à l'aplomb. Mais j'ai pensé que la connaissance n'était pas toute sur ce tableau et donc je suis parti pour répondre à cette question sociale, comment faire fonctionner la diversité des cultures, des niveaux sociaux et des peuples de ce monde. Et au cours de ces voyages, seul sur les routes, dans des conditions, on va dire, rudimentaires, on ne s'occupait pas de savoir où on dormait le soir, mais il n'y avait rien de programmé, il n'y avait pas d'Internet, on dormait où on était, point. Et au cours de ces voyages et de ces rencontres avec des gens de toute croyance et non-croyance, mais toujours dans la bienveillance, je suis venu à me poser des questions sur, et en ayant lu le Nouveau Testament pendant 2 ans, matin et soir, sans vraiment faillir, en ayant lu le Coran, la Bhagavad Gita, je me suis posé cette question, pourquoi les systèmes de croyance, les grands systèmes de croyance du monde se chamaillent un petit peu. Et ça m'interpellait, parce que je voyais des gens sur les routes, les automobilistes qui me prenaient dans leur voiture, qui étaient tous plus sympas les uns que les autres, Et je me suis dit, comment ça se fait qu'au niveau de ce qu'on peut penser dans le domaine de son intériorité, il puisse y avoir quelque part des systèmes qui se prévaudraient d'une supériorité par rapport à un autre. Voilà, donc j'avais ces deux questions et c'est ce qui m'a amené un jour à découvrir les écrits Bahaï. Et après moult analyses de ces écrits, enfin, ces écrits m'ont touché tout de suite au niveau du cœur. J'ai perçu qu'il y avait une forme de véracité dans les textes et donc ça me convenait, évidemment. Mais bon, j'ai quand même fait une petite démarche intellectuelle, hein, puisqu'on était quand même à moitié formé par l'université. Donc de vouloir comprendre ce qui était quand même derrière, comment fonctionnait, est-ce qu'il y avait un pouvoir, qui avait autorité, est-ce qu'il y avait une interprétation des textes, comment fonctionnaient les flux financiers, etc. Donc après ça, un jour, j'ai dit, c'est pour moi, et puis voilà. Alors le fait d'avoir accepté ce message, je vais dire que, étant de culture judéo-chrétienne, étant chrétien catholique de naissance, ayant servi la messe avec le prêtre, donc, suite à cette acceptation, je dois dire que j'aime le Christ encore plus qu'avant, et c'est toujours le cas. Et j'ai appris à comprendre qui était Mahomet, qui était Moïse, et toute la lignée sémitique, et de leur faire une grande place dans mon cœur aussi, puisque sans eux, il n'y aurait pas eu cette évolution qui m'a amené à cette recherche personnelle et indépendante. Donc, on ne peut pas faire fi du passé. J'arrête sur cette histoire. J'arrête sur cette histoire, ce n'est pas le thème de la soirée. Alors, ce que j'ai vu, il y a une citation qui m'a interpellé dans ces écrits Bahaï, c'est qui dit « Tout ce qu'un homme sait, il ne le peut toujours communiquer. Quant à ce qu'il peut communiquer, il n'est pas toujours opportun de le faire. Est-ce qu'il pourrait opportunément communiquer ?» ne correspond pas toujours à la capacité réceptive de celui ou ceux qui l'écoutent. Et je trouve qu'il y a une grande sagesse, ça a été dit au milieu du 19e siècle. Donc ce qui veut dire que ce soir, dans le peu de connaissances que j'ai pu glaner à droite et à gauche, ou auto-générer, puisque l'être humain a cette faculté d'auto-générer des concepts, et d'exprimer ses pensées. Donc, je ne suis pas sûr que je peux le transmettre comme il faut. Je ne suis pas sûr que ce soit opportun de le faire par rapport à un timing dans la vie de ceux qui écoutent. Et puis non plus, ce n'est pas sûr que ça corresponde à votre capacité réceptive, c'est-à-dire soit à vos capacités propres à comprendre, soit à votre capacité de vouloir entendre ce que vous aimez entendre et pas trop ce que je vais dire. Donc je vais essayer de ne fâcher personne. Je veux le faire dans la bienveillance, évidemment. Ce n'est qu'une recherche. Je ne suis qu'un humain parmi des milliards d'êtres humains. Il n'y en a pas un qui est le même. Chacun a une belle histoire. Et voilà ce que je voulais dire. Donc je vais utiliser des mots peut-être particuliers. Évidemment, on est dans un café Théo, alors si j'utilise le mot Dieu, alors il y a des nouveaux dans la salle, alors bon, il peut y avoir des athées hein, qui sont là, ou des agnostiques, etc. Donc si ce mot Dieu fâchait quelqu'un, mettez amour ou mettez bienveillance, mettez quelque chose qui connote positivement dans votre tête. Je commencerai en partant d'un postulat qui est que toute chose créée a un créateur. Je crois que ça serait le postulat de base pour ce petit exposé. Donc nous sommes dans un bâtiment, dans une salle. Il y a eu des maçons, il y a eu des plaquistes, il y a eu des peintres. Est-ce qu'on les voit ? Non. Donc, comme on ne les voit pas, certains vont dire, bon, bah, écoutez, là, c'est le Big Bang. Donc, il n'y a pas d'intelligence derrière, il n'y a pas d'architecte, il n'y a rien du tout. Alors, si c'est le Big Bang, ça m'interpelle, parce que a-t-on jamais vu une poignée de sable, de ciment et de gravier avec un peu d'énergie qui viendrait de quelque part se transformer en quelque chose d'aussi beau, avec des murs bien droits, etc. une explosion chaotique, un mélange big-bangesque, ne peut pas produire quelque chose d'ordonné, de coordonné, de rationnel. Enfin, je le soumets à votre réflexion. Maintenant, si on sort dans la rue, il y a d'autres bâtiments, mais il y a aussi des arbres. Alors, qui a créé les arbres ? Est-ce l'homme ? Non. Alors, qui a créé l'arbre ? Pourtant, ces arbres, ils vont très bien avec ce bâtiment. Ils accompagnent l'extérieur. Il y a une belle harmonie autour de tout ça. Et après, la question va être, est-ce qu'il est plus facile de créer un bâtiment à partir de pas grand-chose, enfin, ou de ce qu'on a autour, hein, des graviers, du sable, etc., ou est-il plus facile de créer un arbre pour l'être humain ? Donc la réponse, vous l'avez, hein, c'est plus facile de faire une maison, de construire une maison, qu'en partant de rien, de faire pousser un arbre. Donc ce qui veut dire que si l'être humain n'a pas l'intelligence, en partant de rien, de créer un arbre, c'est qu'il y a une intelligence supérieure à la sienne qui a engendré cette forme du monde végétal au travers de cet arbre. Et donc si on prend la création, c'est, bon, au commencement était le Verbe, hein, c'est une phrase bien connue de tous les gens qui ont eu accès à des écrits sacrés, quelle que soit leur tradition, au commencement était le Verbe, c'est quelque chose qui est aussi un postulat dans le domaine de la foi et de la croyance. Alors, la nature est donc très certainement un reflet du divin. Et dans les écrits Bahá'í, le personnage central s'appelle Bahá'u'lláh, et il dit « La nature en son essence est l'incarnation de mon nom, l'auteur, le créateur. Ses manifestations sont diversifiées pour des causes variées, et dans cette diversité, il y a des signes pour les hommes de discernement. La nature est la manifestation de la volonté de Dieu qui s'exprime dans le monde des contingences et par le monde des contingences. » Il dit aussi que la terre est un seul pays dont tous les hommes sont les citoyens. Alors, évidemment, quand on entend ça, et on en est conscient maintenant, vivre en autarcie n'est plus possible. On est obligé de partager. On est même obligé de partager les ressources ou de se les vendre ou de se les acheter. Donc la préservation des ressources de la planète est un domaine critique qui requiert une action unifiée. Et puis, il y a aussi cette citation qui concerne l'origine de l'homme. Il y a une belle citation qui dit « Vous êtes les fruits d'un seul arbre, les feuilles d'une même branche. » J'aime beaucoup ça. Alors j'ai sélectionné quelques passages dans ces écrits concernant la création et le rang de l'homme dans cette création. Alors, il y a des centaines de textes comme ça dans ces écrits, de petites citations comme ça. J'en ai pris 4. On commence par la première. « Ayant créé le monde et tout ce qui y vit et s'y meut, Dieu, par l'opération directe de sa volonté libre et souveraine, a voulu conférer à l'homme, en privilège unique, la capacité de le connaître et de l'aimer, le dotant ainsi d'une faculté dont l'exercice doit être regardé comme la raison d'être, la fin principale et dernière de toute la création. » Cette citation signifie que l'univers est créé pour l'homme. C'est extraordinaire, hein ? L'univers serait créé pour l'être humain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de vie, dans d'autres systèmes, ou même dans notre système solaire. Mais le messager Bahá'í, ou le prophète, dit ça. Et donc le plus haut rang que l'homme puisse atteindre sur cette terre serait de reconnaître l'existence de son créateur, et il a le libre arbitre pour le faire. Oui ou non, on a les choix. On est vraiment avec ce libre arbitre. La seconde citation, c'est « Sur l'essentielle réalité de chaque chose créée, il a répandu la lumière d'un de ses noms, et de chacune d'elles, il a fait le siège d'un de ses attributs. Mais sur la réalité de l'homme, Il a concentré l'éclat de tous ses noms et attributs, et il en a fait le miroir de sa propre personne. Seul, entre toutes choses créées, l'homme a été choisi comme objet d'une si grande faveur. Donc, dans cette deuxième citation, on peut considérer que, entre les lignes, l'homme est interpellé pour développer des capacités qu'il rapproche du divin, puisqu'il est fait à cette image, dans un processus d'émanation. Hein, ce n'est pas un processus de Dieu qui descend dans l'homme en chair. Quoi, hein, c'est un processus d'émanation, comme le soleil émane ses rayons sur le monde du vivant. Le soleil ne change pas de place, il envoie les rayons, il ne bouge pas. Mais l'homme, qui a un si haut rang, sur lequel a été envoyé tant de capacités potentielles, cet homme doit être éduqué. Et on sait bien qu'à chaque enfant qui naît dans le monde, il faut éduquer l'enfant. Tout est à recommencer à chaque enfant qui naît. Et ça, ça interpelle. Il y a certainement des enseignants. Il y a Jean Albert qui est enseignant ici. Donc ça interpelle. Rien n'est acquis dans le processus civilisationnel. Rien n'est acquis, tout est à recommencer avec chaque enfant. Quelle responsabilité! Donc il dit « Considérez l'homme comme une mine riche en pierres précieuses, d'une valeur inestimable. Mais seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Plongez-vous dans l'océan de mes paroles afin d'en pénétrer les secrets et découvrir toutes les perles de sagesse qui recèlent ses profondeurs. » Quatrième citation, qui va concerner le libre arbitre de l'être humain. « Tout acte que vous ne faites encore que de méditer, lui est aussi clair que si vous l'aviez déjà réalisé. Mais cette préscience divine ne détermine pas plus les actions humaines que le fait pour vous de savoir que tel événement doit se produire ou l'envie que vous avez qu'il se produise ne détermine cet événement. » Donc dans cette quatrième citation, on comprend que l'homme a un vrai libre arbitre dans ses prises de décision et qu'il n'y a pas d'interférence du divin dans les agissements des hommes. On pourrait donc dire que si ça se passe mal sur cette terre, c'est plus de la faute des limitations humaines, de toutes sortes, que de la faute de cette grande énergie englobante, ce Dieu inconnaissable dans son essence, à l'origine de toutes les formes de vie dans cet univers harmonieux au développement millimétré. Il y a quelques décennies encore, les scientifiques disaient: le Big Bang, enfin, pas le Big Bang, le développement de l'univers est chaotique. Donc, moi, j'étais parti quand j'avais 20 ans, je me suis dit, bon, ça explose dans tous les sens aux limites de l'univers, on ne peut même pas s'imaginer la dimension de l'univers, ça explose dans tous les sens n'importe comment. Et puis maintenant, ces scientifiques arrivent à l'idée que non, ce serait millimétré. Si c'est millimétré, il y a une intelligence derrière. Donc il y a une intelligence intrinsèque, a priori, à cet univers. Alors les différents règnes. Alors, l'homme a beaucoup de mal à percevoir l'existence du divin. En effet, le règne inférieur a toujours du mal à comprendre le règne supérieur. Par exemple, le règne minéral est composé d'atomes et de molécules qui lui donnent sa cohésion atomique et moléculaire. Mais le minéral ne peut pas comprendre le règne d'après, qui est le règne végétal, qui lui a la même cohésion atomique et moléculaire, mais qui en plus est doté du pouvoir de croissance. De même que la plante, dotée comme le minéral de cette cohésion, dotée du pouvoir de croissance, a bien du mal à comprendre que l'animal a des fonctions instinctives. Et cet animal, qui a toutes les qualités des règnes d'avant, qui englobe toutes les qualités, les attributs, les fonctions du règne d'avant, lui, il a bien du mal à imaginer que l'être humain soit doté d'une âme douée de raison, qui l'amène à conceptualiser les choses, à avoir une volonté, à entreprendre, à pouvoir exercer de la bienveillance ou de la malveillance. Enfin, cet animal ne peut pas comprendre cela. Il est limité dans les fonctions de son règne. Et puis l'être humain, qui a toutes les qualités des règnes précédents, avec cette âme dotée de raison, cet être humain, c'est pas évident pour lui de comprendre qu'il puisse y avoir une intelligence quelque part supérieure à la sienne, qu'on appellerait Dieu. Donc on vient de démontrer que le règne inférieur, par inférieur, je veux pas, c'est pas péjoratif de dire inférieur, hein, c'est juste un règne, parce que les règnes s'apposent. Et justement, on a besoin de cette apposition entre eux et pour qu'il y ait coopération. Et d'ailleurs, il y a une coopération évidente entre tous ces règnes. S'il n'y avait pas de plantes, il n'y aurait pas d'animaux. S'il n'y avait pas de plantes et d'animaux, il n'y aurait pas d'êtres humains. Bon, vous me direz que le Créateur, dans son infinie bonté, aurait pu créer des êtres humains. Il y a peut-être des formes de vie, bien sûr, aussi intelligentes, voire plus que nous, qui n'ont pas besoin de plantes ou d'animaux à manger. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer, on peut laisser notre esprit libre de tout cela. Alors, ce libre arbitre, hein, on a une âme douée de raison, et puis cet être humain, il a le libre arbitre. Et c'est l'homme de discernement, donc conscient de sa position privilégiée sur cette terre, pourrait reconnaître qui fait partie d'un ensemble infiniment plus subtil et organisé que lui-même, est soumis à des lois, et c'est des lois que l'être humain a grand-peine à découvrir. Donc s'il a de la peine à découvrir les lois, il n'est pas l'auteur de ces lois. Einstein, quand il en fin de vie, il est devenu mystique, et il disait « arrêtez de m'encenser ». La loi de la relativité préexistait, elle est passée à travers ma plume, je l'ai posée sur le papier. Je suis juste le transcripteur de cette loi, je ne suis pas l'auteur et le concepteur de la loi. Vous voyez ? Le Créateur, dans son infinie bonté, a doté l'homme du libre arbitre. On aurait pu être créé servile. Mais le libre arbitre n'est qu'une liberté de choix. Et l'ego de l'homme, dont le propre est normalement qu'il soit apprivoisé, pendant cette courte vie terrestre, par le développement de qualités spirituelles, en fait, cet ego va être le principal ennemi de l'homme dans une approche du divin qui nécessite plutôt une grande humilité. Comment approcher quelque chose d'infiniment plus grand que moi si mon ego est devant, si je n'ai pas cette humilité de dire « je ne sais pas, je veux comprendre, je dois ouvrir les canaux de mon intuition, voyez ?» Pause. Oui. Et peut-être on pourrait considérer que l'approche du divin, c'est pas quelque chose de fumeux et d'ésotérique. Je vois plutôt l'approche du concept du divin comme une démarche consciente, voire rationnelle, et non pas de crédulité servile ou d'imitation aveugle. Pourquoi je crois comme mon père, mon grand-père ou mes arrière-grands-parents? Je ne suis pas obligé. Je suis un être humain. Il y a toute une évolution. Je peux évoluer aussi différemment d'eux, en restant dans la bienveillance, bien sûr, vis-à-vis du passé, de ce qu'ils m'ont transmis, le respect que je leur dois. Alors maintenant, si quelqu'un dans cette salle, on parle de Dieu, de la possibilité de croire, maintenant, si quelqu'un dans cette salle me disait « je ne crois pas en Dieu », bon, moi, je lui dirais... Il ne croit pas en quelque chose qu'il ne connaît pas. Bon. Et que moi qui me dis croyant, je crois en quelque chose que je ne connais pas non plus. Donc, en fait, nous devrions rester en bienveillance. D'accord ? La personne ne croit pas. Elle ne croit pas en quelque chose dont elle ne sait pas ce que c'est. Moi, je dis que je crois en Dieu, mais comment je peux définir Dieu ? On peut écrire des centaines de pages. On va noircir le papier avec l'encre. Comment ? C'est pas possible. On peut pas imaginer cette force créatrice. Ça nous surpasse de très loin. Et puis, de toute façon, c'est au fruit qu'on voit le bon arbre. Donc, il se peut que quelqu'un qui se dit non-croyant fasse des choses bien mieux que moi qui me dis croyant. Donc, restons vraiment dans une grande ouverture. Parce que le poids des mots est entaché de l'histoire et des exactions du passé. Et parfois, qu'on utilise des mots qui, bien sûr, connotent mal dans les têtes d'autres individus, parce qu'ils n'ont pas la même expérience de vie que soi-même. Alors, si on se place du côté du divin, j'ai une citation qui dit, ça c'est le messager qui lui-même reçoit comme mission de parler aux humains, hein. C'est messager, c'est Moïse, si on les met dans l'ordre, on a Moïse, on a Krishna, on a Zoroastre, on a Bouddha, on a le Christ, on a Mahomet, et puis pour les Bahaïs, donc il y a le Bab et Baha'u'llah, qui sont les deux personnages centraux. Donc Baha'u'llah dit, tu voulus te faire connaître des hommes, c'est pourquoi par un mot de ta bouche, tu amenas le monde à l'existence et façonnas l'univers. Et la citation 2, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus haut rang que l'homme puisse atteindre sur cette terre et de reconnaître l'existence de son créateur et de le servir. Donc on verra, si je n'oublie pas, comment on peut servir cette intelligence créatrice et se mettre en phase avec elle. Se mettre en phase, c'est prenez une feuille de papier, vous versez de la limaille de fer dessus, c'est tout désorganisé. Vous mettez un aimant sous la feuille et vous allez avoir de belles lignes de limaille de fer qui s'orientent en nord-sud. D'accord ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Se mettre en phase avec l'intelligence créatrice pour un moment donné, c'est de reconnaître ce que le messager apporte comme enseignement et d'essayer de son mieux de suivre ses enseignements pour voir si ça sert à quelque chose, si ça me fait du bien, si ça amène une cohésion sociale, si ça engendre de belles œuvres et de belles actions. Donc, a priori, donc, un rang aussi prestigieux que d'avoir la capacité de reconnaître son créateur, conféré à l'homme lors de son passage donc, sur cette terre, l'investit d'une responsabilité. J'ai une grande responsabilité, et cette responsabilité, elle est spirituelle, puisqu'elle est en lien avec le divin. Et ce n'est pas seulement une responsabilité organisationnelle ou marchande. Responsabilité, bien sûr, face au vivant. Alors, le vivant, qu'est-ce que c'est ? Le vivant, c'est 5400 espèces de mammifères, dont l'homme, qui a lui-même 7,7 milliards de représentants sur cette terre en 2020. Ce sont 10 400 espèces d'oiseaux, 1,3 million d'insectes dont la biomasse est 300 fois plus importante que la biomasse humaine. Et ce sont 110 000 espèces de mollusques. C'est des données qui ont été prises au musée des confluences à Lyon. Alors de tels chiffres devraient nous interpeller. Mais sommes-nous vraiment des chercheurs de vérité ? Est-ce qu'on cherche la vérité ? C'est pas sûr qu'on soit des chercheurs de vérité. Ici, ce soir, dans cette salle, nous avons beaucoup de chercheurs, c'est vrai. C'est un café Théo. Le public de ce café Théo, c'est des gens qui cherchent, qui se posent des questions. Cependant, il n'est pas facile de trouver cette vérité avec un grand V. Celle qui m'éloigne de mes propres vérités de complaisance, liées à mon ego, ma paresse, mes imaginations, mes chimères, mes fantasmes. Donc, trouver la vérité avec un grand V, c'est-à-dire la véracité. La véracité, c'est ce qui est plus lié avec le spirituel. Ça devrait m'amener à engager une démarche volontaire, personnelle et indépendante dans cette recherche. et certainement dans une attitude de grande humilité afin de libérer les canaux de l'intuition. Et l'intuition est une des formes de connaissance, avec la connaissance acquise à l'université, la connaissance que je vais autogénérer par ma propre réflexion, la connaissance du livre. Ce fut une fois la Torah, une autre fois l'Évangile, une autre fois le Coran, une autre fois la Bhagavad Gita. Donc ce livre est une forme de connaissance. On a tendance à l'oublier dans le monde occidental matérialiste. Alors quand je dis que c'est une démarche volontaire, personnelle et indépendante, le volontaire, et là je prends une citation, c'est volontaire car le développement du potentiel dont chacun a été doté dépend de l'exercice que chacun fait de sa propre volonté. Personnel, car les canaux de ma propre intuition, couplés avec mes connaissances, vont me guider et les voies de ma recherche sont uniques, donc personnelles. Ça, c'est personnel. Chacun ne va pas aboutir à la même réponse dans une démarche personnelle de recherche. Et puis indépendante, c'est-à-dire que pour faire mes choix, je ne vais pas a priori les subordonner à une autorité quelconque. Exemple, je reviens à l'arboriculture. Si j'ai besoin d'un produit pour traiter mes arbres fruitiers, je ne vais pas aller consulter la liste des produits phytosanitaires existants sur le marché, puisque j'ai des grandes chances d'acheter des produits qui vont sortir des grands producteurs style Monsanto, Bayer, BASF, etc. D'ailleurs, Monsanto a été racheté par l'Allemand Bayer. Donc, vous voyez, la société Monsanto n'est pas morte, et elle a seulement changé de nom et Bayer est devenu plus gros. Alors, Bayer, ça veut dire bavarois. Bayer. Et je connais bien les bavarois puisque j'ai enseigné le ski en Bavière 3 saisons. Et mes collègues à l'école de ski étaient des agriculteurs, des éleveurs, des bûcherons, quelques artisans bien sûr. Et c'était les mêmes personnes qui avaient demandé à M. Steiner, au début du XXe siècle, de leur écrire un protocole de culture et de soins naturels qu'ils pourraient appliquer dans leur ferme. Car au début du XXe siècle, les agriculteurs allemands étaient déjà conscients de l'emprise de l'industrie chimique sur leurs méthodes de culture. Pour rappel, en 1913, la société allemande BASF développe le procédé industriel de production de l'ammoniac. Ce procédé industriel va les amener quelques années plus tard aux engrais chimiques, à l'ammonitrate. Alors l'ammonitrate, hein, ça envoie, hein, vous mettez ça au pied d'un arbre ou de végétaux, hein, il y a de l'azote, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça fait des grosses pousses, mais bon, ce n'est pas ce qu'on recherche si on commence à avoir une approche plus fine du monde du vivant dans le règne minéral et végétal, voire animal. Cet ammonitrate, il me semble bien que c'est ce qui a explosé à Beyrouth il n'y a pas longtemps. Hein, c'est ça, hein, ça a aussi des facultés pour faire des pétards. D'ailleurs, quand j'étais enfant ou adolescent, j'ai fait des études de chimie, j'ai oublié de le mentionner. Je ne sais plus si je l'ai mentionné ou pas. Bref, il y avait de l'ammonitrate à la ferme. Hein. Mes parents, mes grands-parents n'étaient pas en bio à l'époque. Hein. Donc on prenait de l'ammonitrate, on mélangeait un petit peu avec du soufre, je ne sais plus ce qu'on mettait d'autre, on mettait ça dans des tuyaux de chauffage central, on pinçait le tuyau à chaque bout, on mettait un Big Ford, parce qu'il restait des Big Ford du temps de la résistance dans la ferme, on allumait, ça faisait des belles explosions. Hein. Souvenir. Donc, ces agriculteurs allemands demandent à M. Steiner de leur écrire un protocole pour revenir à des méthodes naturelles et pas se faire enfermer par l'industrie chimique allemande en plein développement. Donc, M. Rudolf Steiner est le père de la biodynamie. C'est une méthode que je vais donc utiliser au verger plus tard. Il va donner 8 conférences, communément connues comme le cours aux agriculteurs, et il publia ce cours le 16 juin 1924. Donc, vous voyez, c'est concordant, hein. BASF, procédé de synthèse industrielle de l'ammoniac, 1913. 1924, M. Steiner écrit ce cours aux agriculteurs. Le titre du livre s'appelle « Agriculture, fondement spirituel de la méthode biodynamique ». Alors, je n'ai pas eu le temps de rechercher ce que voulait dire le mot « spirituel » dans la bouche de M. Steiner, hein. Agriculture, fondement spirituel de la méthode biodynamique. Mais il est vrai qu'en 1924, il s'adresse à une population allemande encore très consciente de la nature spirituelle de l'être humain. C'est évident, pour les gens de cette époque, c'est évident. Même les tyrans des époques du 19e étaient profondément croyants. Ça ne les empêchait pas de faire des guerres de partout, de se trucider, mais ils étaient croyants. Hein. Ils croyaient en Dieu. Ils savaient qu'ils allaient, lors de leur passage dans le monde d'après, ils savaient qu'ils allaient devoir rendre des comptes à Dieu sur le bilan de leur règne. Ils en étaient conscients. Mais bon, la violence prédominait. Ils n'étaient pas arrivés à faire la Pax Romana par la spiritualité dans leur propre esprit et dans leur propre cœur. C'est comme ça. Ouais, c'est comme nous dans 100 ans, les êtres humains dans 100 ans, quand ils vont réfléchir sur comment on a traité le vivant aujourd'hui, ils vont dire, mais c'était des barbares. Alors, comme je dis, M. Steiner, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par spirituel. On le définira tout à l'heure, ce mot spirituel. Toujours est-il que pour les Bahaïs, approcher la nature avec des valeurs spirituelles, c'est un prérequis, évidemment, de base pour créer l'harmonie entre les règnes minéraux, végétaux et humains. Alors, je n'ai jamais appliqué les techniques de la biodynamie à 100%, mais plutôt pris ce qui me semblait intéressant, et j'ai procédé comme ça pendant quelques années. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai arrêté d'utiliser la méthode de biodynamie. J'essaie de faire au naturel, carrément au naturel. Je ne retourne pas les sols. Ça m'embête de dire « je hein, », j'aime pas le « je ». Donc, on ne retourne pas les sols, mais on met sur le sol du BRF, du bois raméal fragmenté, hein, c'est des broyades de branches d'arbres et de feuilles. Et puis, ça permet de recréer un sol humique à base d'humus, un peu comme dans la forêt. Quand vous allez en forêt, si vous vous amusez à soulever les feuilles et à sentir et à regarder ce qui se passe dessous, eh bien, c'est le sol humique et dans la forêt, il n'y a pas besoin de faire d'apport de fertilisant, le processus suffit. Vous voyez ? Et en feuillage, à part pour les pommiers qui craignent un petit peu ce qu'on appelle la tavelure, c'est ces petites taches noires, bon, alors pour ces pommiers, on prend 2 sels de cuivre, dissous dans une décoction de prêle, qui est un antiseptique. La prêle est un antiseptique. Et puis, on fait 3-4 traitements dans toute la saison, et ça suffit. D'autant plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, les étés deviennent très secs. Donc, il n'y a quasiment plus de tavelure. Donc, je vais dire, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Sauf qu'il faut faire des apports d'eau en sol. Sinon, les arbres peuvent crever. Quoi. Il y a des noyers, par exemple, qui sont en train de mourir. La forêt est en train d'avoir beaucoup de difficultés, hein, dans nos montagnes, même dans les montagnes. Donc voilà. Alors, ce traitement au cuivre, le fait de mettre de la prêle, on met des doses de cuivre homéopathiques, on va dire. Hein. Alors, ce sont les seuls intrants sur la parcelle, du bois raméal fragmenté et un traitement à base de cuivre. Sur pêcher et sur abricotier ou prunier, on ne fait absolument rien. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il faut mettre sur les troncs j'aime pas le mot piège, mais des éloigneurs de fourmis. Ce sont des bandes qu'on attache autour du tronc qui sont un petit peu engluées avec de la colle. voyez, ça évite que les fourmis montent dans l'arbre. Parce que s'il y a des fourmis qui montent dans l'arbre, les fourmis vont tapoter le peu de pucerons existants. Elles se nourrissent du miel-là sécrété par les pucerons. Et donc, dès qu'il y a des fourmis, elles tapotent les pucerons, ça les fait se multiplier, etc. Et là, c'est l'invasion de pucerons. Il faut empêcher les fourmis de monter. Alors évidemment, comme on n'est pas des tueurs, on met ses pièges, la fourmi arrive sur le piège, elle commence à mettre les deux pattes, elle sent que ça colle, et elle revient en arrière. Alors il y a quelques fourmis qui manquent de discernement, c'est un peu comme les humains, hein, qui manquent de discernement. Alors celles-là, elles se font attraper, et bon, c'est, quand on manque de discernement, évidemment, ça peut finir mal, quoi. Si on ne discerne pas le feu vert du feu rouge, qu'on passe au feu rouge, on est mal parti, quoi. Pareil pour les fourmis, donc il y a quand même un petit peu de mortalité chez les fourmis, mais très peu par rapport au fait d'utiliser un produit chimique pour les... Oui, en plus, c'est impossible d'éliminer des fourmis, et puis il ne faut pas les éliminer. Alors, la définition du mot, on parle de spiritualité. On peut être spirituel sans être religieux. On peut aussi être religieux sans être spirituel. Ça, pas besoin d'explication là-dessus. Hein. Alors, le mot spirituel, ce mot, il a été éradiqué du vocabulaire par le matérialisme rampant du début du XXe siècle. Loi de laïcité, on sépare l'Église de l'État, on dit à l'être humain, on coupe l'être humain en deux, on lui dit d'un côté, il y a les affaires de la cité, de l'État, et ton business et tes machins, c'est d'un côté. L'autre côté, il y a les affaires de croyance, voire de la foi, si tu as des prédispositions à ça, c'est de l'autre côté. Donc, on coupe l'être humain en deux, et ce matérialisme rampant va durer une grande partie. Enfin, il est toujours là, hein, il n'y a pas de doute sur la question. Alors, c'est seulement... Et ça, c'est intéressant, parce que... Les Bahaïs sont très en relation avec tous les grands bureaux des Nations Unies, comme l'ECOSOC, l'UNICEF, l'OMS, etc. On travaille beaucoup avec eux. Et donc j'ai été amené à lire pas mal de rapports, des publications des Nations Unies. Et le mot spiritualité a été ramené dans les textes des Nations Unies à la fin des années 80 ou dans les années 80, après moult discussions. Après moult discussions, ils n'osaient pas remettre ce mot. Vous vous rendez compte ? Bon. Donc, 100 ans plus tard, en 2020, le matérialisme, il n'est plus rampant. Il est affiché. D'accord ? C'est notre société. Bien sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent, et vous en faites partie, donc on essaie d'équilibrer, bien entendu. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les sociétés n'ont jamais eu autant besoin de valeurs spirituelles. Jamais. Alors, pour définir ce mot, je peux aller dans le dictionnaire, en fait. On s'était mis, je me souviens, autour d'une table, il y a quelques années, avec des amis, puis on s'est dit, tiens, comment on pourrait définir la spiritualité ? Alors, on était arrivé à cette définition de dire que la spiritualité, c'est pour l'homme d'acquérir ses vertus, ses grandes qualités humaines qui vont faire de lui un être humain, comme la bienveillance, l'humilité, le courage, l'honnêteté, l'esprit de service, la constance. Il y en a 300 d'adjectifs comme ça en langue française. Voyez ? Donc acquérir ces attitudes dites vertueuses, afin de passer d'un plan de conscience à un autre, dans le but d'entrer en harmonie avec le vivant qui nous entoure, et en particulier avec nos frères humains. Donc, si je veux développer mes qualités spirituelles, je vais devoir faire des efforts, je vais devoir essayer de me contrôler, contrôler mes instincts, contrôler mon ego, etc., de façon à avoir comme objectif de vivre en harmonie avec autrui et avec les choses créées. je cite un texte des écrivains, et il est vrai que l'homme a tout pour bien faire. Il dispose d'une conscience, d'une volonté, d'une mémoire, du pouvoir, de l'intelligence, des attributs divins et des vertus dont la nature est complètement dépourvue et privée. La nature est dépourvue d'intelligence, de mémoire, en fait. Bon, ça peut se discuter. Donc cet être humain, il règne, en fait, il a le pouvoir de régner sur la nature. Et l'exercice correct de cette responsabilité, de ces pouvoirs qu'a l'être humain de manipuler, découvrir les lois de la nature, de la domestiquer, l'exercice correct de cette capacité va déterminer si son génie inventif va produire des résultats bénéfiques ou créer des ravages dans le monde matériel. Car progrès et barbarie vont de pair tant que la civilisation matérielle n'est pas renforcée par une conduite spirituelle de l'être humain. Donc, d'essayer de refléter autant que faire se peut ces grands attributs d'humilité, de bienveillance, de courage, obéissance, enfin voilà. Et ces êtres humains, il y a une citation qui dit à ces êtres humains, « Vous foulez ma terre avec complaisance, satisfait de vous-même. » Je ne tourne pas trop la tête vers vous parce que je sais que le micro est là, désolé. Hein. Satisfait de vous-même, insouciant de ce qu'elle est lasse de vous et que tout ce qu'elle renferme se dérobe à vous. C'est vrai que quand on voit passer des tracteurs qui font 8 tonnes sur le sol, je me dis pauvre terre, quoi. Je me rappelle de mon grand-père qui fonctionnait qu'à la pioche, qui n'a jamais voulu conduire un tracteur. Il avait un toucher de terre avec sa pioche qui était très élégant, très fluide, très doux. Il ne faisait rien peser sur la terre. Vous voyez ? Donc, cette terre, elle peut être lasse de ce qu'on lui fait. Alors, étant arboriculteur, cette citation m'emmène à la réflexion suivante. Si on prend un arbre, l'arbre, il respire principalement donc, par son feuillage et ses racines. Les racines sont bien ancrées dans le sol, ils poussent droit, sauf dans les pays où il y a du vent, bien entendu. Pendant ce processus, pour qu'ils poussent, il y a le processus de la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est de transformer le gaz carbonique et l'eau en matière glucosée, en glucose, et puis en oxygène. Et le glucose, c'est le carburant de l'arbre pour le faire croître et pour faire pousser les fruits, etc. Et ce que je retiens d'intéressant dans cette image, c'est le fait que le feuillage de l'arbre, dans le processus de photosynthèse, il est tourné vers le haut. Il est tourné vers la lumière du soleil. Donc imaginez un truc fou, l'arboriculteur plante l'arbre à l'envers. Il met les branches dans le sol et les racines en l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'arbre, il va mourir, évidemment. Hein. Et si l'arbre voulait le faire, mais l'arbre ne peut pas faire. Les végétaux sont prisonniers d'une forme de développement et ils ne peuvent pas s'extraire de cette forme. Donc, on dira que les rayons du soleil sont au monde des arbres, c'est-à-dire au monde physique de la nature et du plan phénoménal d'existence. Ces rayons du soleil sont au monde physique ce que les enseignements des prophètes et messagers sont au monde de l'âme humaine. Car l'homme, comme le soleil, est aussi le récipiendaire des rayons du soleil. D'accord ? L'homme, comme les plantes, je veux dire, il est aussi le récipiendaire de ces rayons du soleil, ne serait-ce que bon, pour transformer sur nos avant-bras, on a des substances appelées stérols, sous les effets des ultraviolets, on transforme ça en vitamine D. D'accord ? Bon, ça c'est parfait. Mais bon, cet homme... alors donc, bien sûr, l'homme le sait, et puis on va se faire bronzer à la plage. Tac, et puis, on reste sur la plage, et on bronze, et on bronze, et on bronze. C'est parfait. Mais l'homme n'est pas un arbre, hein, c'est pas un végétal. Donc se bronzer sur la plage, c'est parfait, on peut le faire, ça nous repose, etc. Mais c'est pas le, ce n'est pas le but de la vie humaine. Hein. L'homme, si je le compare à l'arbre, cet homme, lui, il a devoir aussi de se tirer vers le haut, c'est-à-dire de tourner son âme vers la lumière qui émane des enseignements de ses prophètes et de ses messagers. Vous voyez ? Donc l'arbre se tourne vers le haut pour être le récipiendaire des rayons du soleil, et l'homme, dans le même type d'attitude et la même recherche de s'élever et de produire de bons fruits, qui sera ses bonnes actions sur cette terre, va essayer de canaliser ce qui arrive par les messagers divins et leurs enseignements. Et pourquoi ? Tout simplement parce que cet homme qui va tourner son esprit vers les enseignements, vers la lumière et le spirituel, ça va l'aider à maîtriser donc ses instincts et commencer à créer ce petit paradis qu'on aimerait bien voir poindre sur terre. Le Bab précurseur de Baha'u'llah décrit le paradis, et ça c'est intéressant, il décrit le paradis comme une condition dans laquelle chaque chose créée progresse vers son plus haut degré de perfection. Je répète ça. Le Bab donc décrit le paradis comme une condition dans laquelle chaque chose créée progresse vers son plus haut degré de perfection. Alors, certes, on peut le faire, mais pour que ça progresse vers un degré de perfection supérieur, j'ai besoin quand même de ces qualités spirituelles. Ça peut être le contraire. Hein. On peut partir dans la spoliation, la désintégration des choses, des pensées, des comportements, etc. Alors, autre remarque intéressante, dans cette citation, il n'est pas parlé du paradis dans l'autre monde. Hein. Il ne parle pas de l'autre monde. Hein. Il parle de chaque chose créée. On est dans le domaine de la création. Il parle d'ici. D'accord ? Donc, ce paradis sur terre, il est à construire. Il est à créer. Et comme ce ne sont pas les végétaux et les animaux qui vont créer le paradis sur terre, il se pourrait bien que ce soit à l'homme de le faire. Ils n'ont pas cette capacité, les végétaux, les animaux, de développer des concepts pour amener à une civilisation cohérente, harmonieuse. Ils ne peuvent pas faire ça. Et donc l'humanité est un peu comme un oiseau. Un oiseau a besoin de deux ailes pour voler. Et cette humanité, si elle veut avoir un développement équilibré, si on la compare à un oiseau, si elle veut avoir un vol équilibré, une trajectoire équilibrée, une évolution équilibrée, il va falloir qu'elle réconcilie deux pans de connaissances fondamentaux qui sont le côté du religieux et de la spiritualité et le côté de la science. Et si l'humanité n'arrive pas à voler avec ses deux ailes, l'une du développement scientifique, l'autre du développement de sa spiritualité, voire de ses croyances religieuses, elle finira soit dans la fondrière du matérialisme, nous dit Baha'u'llah, soit dans la superstition et les fanatismes de tous ordres, fussent-ils religieux. Donc, quelle responsabilité pour l'être humain, hein ? Quelle responsabilité ? Alors, la relation entre l'homme et la nature est très complexe. Et les écrits bahaï expriment clairement des valeurs spirituelles sûres et des attitudes pour guider cette relation de l'homme avec la nature, guider ses mains, guider son esprit, etc. La nature est donc, comme on le disait, un système organisé et soumis à des lois, mais sans intelligence ni volonté. Cette nature, elle est dépendante de lois déterminées. Il y a un ordre complet, il y a un plan achevé dont elle ne peut s'écarter. L'être humain, lui, par contre, a la possibilité de découvrir les choses, découvrir les lois qui régissent tout cela. Donc il devient évident que cette nature qui n'a ni intelligence ni la volonté pour se modifier elle-même, elle est sous l'emprise de cette intelligence créatrice, de ce Dieu puissant qui est le souverain du monde, de la nature. Donc, pour moi, c'est très particulier ce que je vais dire, me semble-t-il, mais je vois deux sources d'intelligence et de volonté capables de modifier les êtres vivants sur cette terre. Ça fait une heure ? Ah, on va boucler. Donc, je vois deux sources d'intelligence, c'est Dieu et l'homme. Puisque ce dernier, l'être humain, il est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est ce que nous rappellent les textes des grandes religions. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a une nouvelle forme vivante qui apparaît sur cette terre, fût-elle de la taille d'un virus, qui est le créateur ? On peut se poser la question, l'homme, pourquoi pas, puisqu'il paraît que les humains se penchent sur l'étude des virus. Qui a créé cette petite forme virale ? Dieu, pourquoi pas, puisqu'il paraît que les grandes découvertes scientifiques des années 1860 et après, les lois de l'électricité, du magnétisme, Edison, enfin, télégraphe, etc., ben, ces découvertes, normalement, elles étaient destinées à mettre tous les humains nez à nez pour qu'ils réalisent l'unité des peuples du monde dans le respect de leurs différences. L'ont-ils fait ? Je vous laisse répondre à cette question. Alors, peut-être qu'un virus va acculer ces êtres humains, à comprendre que l'on ne s'en sortira que tous ensemble et que la solution des problèmes de tous ordres, viraux ou autres, est de plus en plus planétaire. Mais avant d'arriver au virus, nous avons eu d'autres signes, d'autres épreuves, toutes destinées à nous faire prendre conscience de notre destin collectif. J'en cite quelques-unes rapidement. Réchauffement climatique. Dans les années 70, les premiers satellites observent la planète, commencent à dire « Eh, attention, les choses changent, la banquise est en train de fondre, la Terre se réchauffe. » Bon, après, on a vu des fanatismes de tous ordres. Après, on a eu des flux migratoires. Tout ça, c'est fait pour nous faire réfléchir. Bon, les pauvres qui en sont victimes, malheureusement, il est clair qu'on doit leur porter secours. Désespoir des populations. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir. C'est compliqué d'analyser tout ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai toutes les solutions. Hein. Je m'en garderai bien. Et puis, toutes ces histoires, elles ont toujours été entrecoupées de crises financières. Or, ces grands financiers sont toujours là pour dire « Mais nous, on a les manettes, on tient tout dans nos mains et avec de l'injection d'argent, fabriqué à partir de rien, on va vous organiser tout ça, vous inquiétez pas. Bon, crise financière, crise économique. Bon, peut-être qu'on va conclure. Baola dit, le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne pourront être obtenus si son unité n'est pas fermement établie. Et cette unité ne pourra être elle-même réalisée, ne pourra pas être réalisée tant que les avis révélés par la plume du Très-Haut seront négligés. Oui. Donc il y a la relation entre le fait qu'un messager divin intervienne, dispense une œuvre pour ces humains qui ont toute liberté d'y accéder, de prendre ou de ne pas prendre, chacun est libre, mais il a l'air de dire qu'il faudrait quand même se pencher sur cette forme de connaissance qui est le livre, c'était une des quatre formes que j'ai citées tout à l'heure, le livre, et c'est une des formes de connaissance qui va vous aider à trouver dans votre vie un équilibre un épanouissement, une forme de joie intérieure. Et c'est cette même plume qui, dans son message social, va amener des propositions pour permettre aux humains de s'organiser collectivement afin de faire poindre ce paradis que tout le monde attend, ce paradis, cet âge d'or promis par poètes et prophètes d'autrefois, dont on pense que ça va se passer par un coup de baguette magique qui descend du ciel. Mais je pense que c'est bizarre, hein, c'est à nous de créer ce paradis sur Terre, qui amènera le paradis dans notre propre tenue, dans notre propre attitude, dans notre propre considération d'autrui et de sa différence. Je m'arrête. J'ai fait la moitié de... Bon, bref, mais bon, c'est bon. On y va comme ça. Merci.